depuis le premier jour, donc on court sur King George, qui est une des plus grosses îles de l'Antarctique, sur laquelle il y a plusieurs bases scientifiques. Donc c'est très drôle parce que les scientifiques viennent courir avec vous parce qu'on est un peu l'attraction de l'année, on va dire. Et ça, c'est vraiment, ça fait une ambiance super sympa. Forcément, il y a les manchots, non, qui sont là. Parce que les seuls spectateurs, ça va être les deux chercheurs qui sortent de la base rapidement pour vous applaudir, qui se remettent au chaud. Et puis les manchots qui courent avec vous parce que ça les éclate de voir des gens qui courent.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Cécile Bertin, qui va partager avec nous son expérience de course hors du commun en Antarctique. Cécile a découvert tardivement la course à pied et s'est lancée progressivement, après un premier marathon à New York à l'âge de 37 ans, dans des aventures de course de plus en plus longues et de plus en plus inattendues. Constamment en quête de défis sportifs, mais aussi et surtout de rencontres et de découvertes, Cécile a pris part en 2009 au Marathon de l'Antarctique, une course qui s'inscrivait alors dans un projet plus global, le Seven Continents Club, dont le principe est de réaliser 7 marathons sur 7 continents différents. Vous aurez l'explication un petit peu plus tard dans l'épisode pour comprendre comment on arrive à trouver 7 continents sur le globe. Cette rencontre avec l'Antarctique va bouleverser Cécile, qui n'aura dès lors qu'une idée en tête. Y revenir pour découvrir cette fois une île qui répond au doux nom de Paradise Island. Elle va à nouveau entreprendre un projet très ambitieux pour donner vie à ce rêve. L'histoire de Cécile, c'est une merveilleuse démonstration qu'il est possible de relever d'incroyables défis sportifs et quand bien même, rien ne semblait nous y prédestiner. Mais je ne vous en dis pas plus. Cécile va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Extatique Antarctique. Je pense que c'est le nom d'épisode le plus difficile que j'ai eu à prononcer jusqu'à maintenant. Bonjour Cécile, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique qui va nous voir mettre ensemble le cap plein sud et embarquer nos auditeurs jusqu'en Antarctique. Est-ce que tu as profité de cette interview pour ressortir tes moufles et ta doudoune pour te remettre en situation?
Oui, c'est un peu ça. Je suis sous le plaid.
On fait l'interview au mois de mars, ça pourrait être approprié, ceci dit. C'est pas complètement déconnant. Si on avait fait ça au mois de juillet, exactement. Ça aurait pu questionner un peu plus. Et Cécile, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Cécile Bertin, donc je suis journaliste et auteur. Enfin, je suis surtout auteur et journaliste parce que mon activité principale, ça reste quand même d'écrire des livres aujourd'hui. Et après, j'écris dans le Jogging International tous les mois. Et puis dans tous les autres magazines en fonction des courses que je fais dans le monde.
Et il y en a un paquet.
Et il y en a, ça s'est un peu calmé comme tout le monde ces deux dernières années, mais j'espère pouvoir repartir un peu.
Et tu es une maman comblée de beaucoup d'enfants.
Oui, j'ai 4 enfants. J'espère bientôt les petits-enfants. Le dortoir est déjà prêt et c'est authentique. Il y a déjà 3 lits prêts dans... au cas où. Je suis au taquet, moi. J'ai
t'as déjà
4...
choisi les prénoms?
J'ai pas osé aller jusque-là, mais bon. Les enfants sont prévenus. Non, j'en ai 4 qui sont aujourd'hui des grands enfants parce que le petit dernier a 16 ans, donc autant dire qu'il est plus grand que moi maintenant, mon bébé. Et puis mon très grand, 28, vient de se paxer et j'attends avec impatience de pouvoir m'occuper du mariage.
Un joli programme.
Ouais, voilà.
D'accord, et tu vis du côté de Nantes, c'est ça?
Non, pas du tout. Je suis née à Nantes, moi je vis dans l'Allier. Donc qui n'est pas l'Auvergne, qui est le Bourbonnais, parce que j'y tiens énormément. C'est le nord de l'Auvergne, on va dire. Je suis à la frontière avec la France et on est très indépendante. Je suis passée de la Bretagne à l'Allier, c'est un peu le même esprit. Mon mari est de là en fait et on a craqué il y a quelques années. On était parisiens, j'étais une vraie parisienne. J'étais absolument persuadée que je ne pourrais vivre qu'à Paris toute ma vie. Et puis non, les enfants m'ont fait changer d'avis et on a craqué et on est revenu s'installer dans la région dont est originaire mon mari. Donc, retour aux sources de son côté et pour franchement notre plus grand bonheur, quoi. Et le mien, à ma grande surprise.
Cécile, je te propose de remonter un petit peu le temps et revenir jusqu'à remettre le curseur dans ta plus tendre enfance et ton adolescence. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport à ce moment-là dans ta vie ? Est-ce que tu baignais dans un environnement qui était déjà très enclin à la pratique du sport ou au contraire très lointaine ?
C'est très simple. Enfin, c'était, y avait pas de sport. Point. Mais vraiment pas. Il n'y avait absolument rien. J'ai fait comme toute petite fille de la bourgeoisie de province... de la danse classique, dont je me suis révélée vraiment pas spécialement douée. J'aimais beaucoup ça. Ça, par contre, c'est vraiment un souvenir. Mais voilà, j'ai très vite compris, j'en ai très vite pris conscience, je ne rentrerai jamais à l'Opéra de Paris.
Donc, tu étais trop grande, c'est ça ? Tu avais les jambes trop longues.
Voilà, j'avais les jambes trop longues par rapport à mes bras. Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai handicap. Pour le pied à la main, c'était très compliqué, je faisais le pied à la cheville. Mais... Non, voilà, c'est.
Donc, t'as pas baigné dans cet environnement-là, en tout cas, on t'a jamais inculqué.
Non. Chez nous, personne ne faisait du sport. Le seul sport qu'on pouvait faire, c'était faire du vélo à l'île de Ré l'été pour aller chercher le pain. Donc, ce qui limite quand même énormément. Vraiment, ça. Il n'y a vraiment pas eu de sport et surtout pas d'environnement, c'est-à-dire pas encouragé à. C'est comme ça et puis ça a été jusqu'au bout puisque j'ai même été dispensée de sport à partir du lycée, enfin à partir de la seconde pour des problèmes de dos, donc c'est la médecine scolaire qui m'a dispensée, c'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin d'aller inventer un faux truc, c'est la médecine scolaire qui m'a dispensée de sport pour mon plus grand bonheur. Mais vraiment, donc je faisais même plus ça.
C'est passé à travers la maille du filet du sport.
Ah ouais, heureusement. Oh, qu'est-ce que j'ai pu détester le sport. Moi, pour moi, voilà, mes derniers souvenirs de sport, c'était le cross à l'école, quoi. Donc un traumatisme, donc la haine profonde de la course à pied. Le seul truc où je m'en sortais pas trop mal, donc avec mes grandes jambes, parce que c'est pas une légende, hein, j'ai vraiment eu la croissance des jambes avant le reste, donc c'était un peu ridicule à 12 ans. Donc c'était les haies. On me collait toujours aux haies. Donc ça allait, enfin, c'était 400 mètres, c'était pas très très long, donc je voulais bien faire l'effort, mais ça s'est vraiment arrêté en seconde. Et puis j'ai repris un peu le sport à la fac, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on avait une convention à la fac avec la salle de sport, genre le Club Med Gym ou un truc comme ça, si ça existait à l'époque. Et on avait des prix super intéressants au club à côté de chez nous, et j'y allais pour le hammam. Voilà. Ou sauna à des pains, mais je faisais semblant de faire un cours d'abdos fessiers histoire de me donner bonne conscience, un quart d'heure, pour en fait aller au hammam. Donc voilà. Et ça a duré.
Un bon petit moment quand même, puisque la course à pied, elle est arrivée bien plus tard dans ta vie.
Oh là, oui.
Est-ce que tu peux nous parler de ce qui avait été ton désir quand même, à un moment, de franchir le pas et t'initier un peu plus, de façon un peu plus soutenue à cette discipline ? Qu'est-ce qui a été le moteur et puis qu'est-ce que tu espérais y trouver ?
Alors, en fait, non, il y a eu deux étapes. Il y a eu une première au sein de ma première vie, enfin, ma vie professionnelle, où je me suis retrouvée embarquée dans le raid Amazon, donc un raid d'aventure pour filles, où je me suis retrouvée vraiment embarquée parce qu'il fallait faire une troisième. Voilà, on avait monté un projet caritatif, entre guillemets, là, et on ne trouvait pas de troisième, et donc je me suis retrouvée embarquée là-dedans. Donc là, première fois que j'ai fait du sport, j'ai commencé la première fois à courir pour ça, parce que j'ai reçu le programme. Là, j'ai vu prologue 6 km de trail et le dernier jour, il y avait un 16 ou un 17 km. Je me suis dit, oh, c'est pas possible, je vais mourir, quoi. Donc là, on est en juillet, on part en mois d'octobre et c'est comme ça que ça a commencé, parce que je me suis dit, faut absolument que je fasse du sport. Donc je me suis mise à commencer à courir en août. En vacances, pendant les vacances scolaires, enfin les vacances scolaires, pendant les vacances tout court, c'était les vacances scolaires, mais c'était mes vacances aussi à moi, et là ça n'a pas été piqué des hannetons, les premiers essais, je me suis dit, mais c'est pas possible, dans quoi je m'embarque, hein, je veux dire, ça a vraiment été un truc, et je me suis inscrite à la Parisienne, donc moi je fais vraiment partie de ces femmes dont la première course a été la Parisienne, la course féminine.
Un format de 7 km un petit peu moins, je crois.
Qui était à l'époque 6,5 km, enfin que c'est toujours un truc, c'est toujours un chiffre un peu, en tout cas bâtard, mais un 6,7 km, un truc comme ça. Bon. Ce qui est à dire, ça m'amuse beaucoup avec le recul de me dire que je ne me suis pas posé la question et que c'était forcément une course féminine pour une première course. Donc j'ai fait ça. J'ai enchaîné après une discussion à la machine à café le lundi après ma course avec le Paris-Versailles, dont j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être comme truc. Mais quand j'ai dit que j'avais un 17 km à faire à la machine à café, on m'a dit oh, bah, tu devrais faire le Paris-Versailles fin septembre. C'est la même distance. À l'époque, on pouvait s'inscrire, hein, c'est l'époque d'un siècle que les gens ne peuvent pas connaître, où on pouvait s'inscrire un peu à l'arrache. J'ai fait le Paris-Versailles, j'ai marché évidemment toute la côte des Gardes, enfin bon, voilà, normal. Je ne serais pas capable de dire quel temps j'avais fait, mais je me souviens de cette longue allée au château de Versailles qui était dans le fond d'écran, là. Et puis j'ai fait le raid Amazon, et j'ai survécu au raid Amazon. Et c'est dans l'avion, au retour de ce truc, où j'ai fini, j'ai même pas fini dernière d'ailleurs, enfin avec notre équipe, et c'est là dans l'avion que je me suis dit, je vais courir le marathon de New York.
Voilà. Qu'est-ce qui a guidé ce choix ?
J'en sais toujours rien. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que à part, oui, je pense que, en fait, avec le recul, si je sors un peu Psychologie Magazine, il y a certainement pas mal de choses, pas mal de petits éléments qui font que il y avait une graine quelque part. Je veux dire, le marathon de New York, bon, déjà, c'est New York, hein, quand même, qui est une ville qui, moi, que j'adore et que j'ai la chance de bien connaître. Mes deux aînés ont vécu à New York. Donc, vraiment, c'est une ville qui fait partie de notre vie, familiale même, et moi, personnelle. Je pense, comme beaucoup de gens, on a vu les images du départ sur le pont. C'est des images, même si t'es pas dans le monde du sport et tout, que tu vois au journal de 13h le dimanche de TF1. Donc tu vois des photos, tu sais pas forcément toute l'histoire de ce marathon, mais voilà, c'était « je veux New York ». Et puis, il y avait tout un mixte, je pense, de choses d'inconscient qui étaient dans un petit coin de ma tête. Et puis, quitte à mourir au bout de 42 bornes, autant que ce soit à Central Park, quoi.
C'est bien plus chic.
Ça a plus de classe. Donc, je pense qu'il y avait tout ce mélange-là. Mais bon, je me mets ça en tête. Mais il y avait une autre urgence pour moi, c'était d'avoir un quatrième enfant. Donc, de toute façon, voilà, tout s'arrête parce que je ne me serais même pas venue à l'esprit de courir enceinte ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc, moi, je me suis complètement arrêtée. J'ai eu mon petit dernier et j'ai donc repris. Le projet ne m'a pas quittée. Et le projet est revenu quand Paul avait après 10 mois. Là, je me suis dit, je peux recommencer la course à pied. Et là, ça, tout est reparti à ce moment-là.
Est-ce que tu penses à inscrire cette première expérience à New York dans une perspective de long terme ou tu voyais ça plutôt comme une démarche très ponctuelle, en fait, une expérience que tu avais envie de vivre une fois mais qu'on n'appelait pas nécessairement d'autres ?
Bah oui, parce que de toute façon, dans ma tête, c'était un défi. Et comme des gens sautent en parachute pour leurs 40 ans, ça, c'est pas pour ça qu'ils s'embauchent, voilà, qu'ils se vont chez les paras juste derrière, quoi. Donc vraiment, à ce moment-là, il y avait aucun autre projet qu'un one shot, en fait. Courir New York, voilà. Faire un truc pour moi.
Et donc, tu as réussi à courir New York, tu es allé au bout de cet exercice. Qu'est-ce que ça t'a révélé ? Est-ce que ça a été aussi mythique que tu l'imaginais ou bien plus encore ? Qu'est-ce que tu as retenu de ça ? Et puis, qu'est-ce que ça a déclenché comme envie chez toi ensuite ?
Alors, oui, ça a été à la hauteur de mes espérances parce que réellement, le mythe de New York est une réalité. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains marathons, mais là, dans le cas de New York, c'est vraiment exactement comme ce qu'on nous décrit un peu partout, dans les articles, dans les témoignages. Donc, ça a été quelque chose vraiment d'absolument dingue à vivre.
J'ai oublié de le dire, Cécile, mais on est en 2007, hein, c'est ça ?
Oui. Et puis, il se trouve que bon, ceux qui sont dans... Comme on va quand même parler à des gens... Je sais pas, à des gens qui connaissent un peu l'univers de la course à pied, ça coûte très cher, le marathon de New York. Et il se trouve donc que j'ai gagné un concours et donc que je suis allée à New York tout frais payé pour dire les choses concrètement.
Et ça, et après avoir ne pas avoir été tirée au sort à la loterie.
Ouais, voilà, à la loterie, je fais un concours trouvé comme ça par hasard sur un forum à l'époque. Et je pense que dans ma tête, ouais, ça s'est rajouté à toute l'émotion que j'ai pu vivre là-bas et tout, de se dire, bon, c'est peut-être le début de quelque chose, il y a peut-être un signe. Moi, je ne sais pas que je crois au signe ou des choses comme ça, mais c'est vrai que là, vous finissez par par vous poser la question quand New York se passe super bien, que je passe sous les 4 heures à New York. Alors, bon, j'ai pas gagné New York, hein, mais symboliquement, c'était super fort pour moi.
Tu l'as fini, tu l'as gagné.
Ouais, c'était, je l'ai gagné en tous les cas contre moi-même. Donc ça a été super fort. Et ça a été finalement le début de quelque chose. Oui.
On aura l'occasion justement de revenir un peu plus tard dans l'épisode sur tes projets comme le Seven Continents et le Grand Slam. Mais tu as eu envie ensuite de jouer avec Eldie. Progressivement vers ces formats d'envergure ou des formats relativement atypiques. Qu'est-ce que tu as eu envie d'aller découvrir?
Ouais, alors déjà, il y a eu la première fois où j'ai rallongé la distance, ça a d'abord été sur route, tout simplement, parce que moi, j'ai commencé donc à enchaîner un peu les marathons, et très vite, on m'a prise d'assez haut, alors que moi, j'étais hyper fière de moi. On m'a dit, ouais, mais la vraie distance, c'est 100 km. Donc, je suis dit, ah bon, voilà. Donc, je suis allée sur 100 km à Millau, évidemment, j'ai fait simple. Et non, je suis plus près de chez moi, quoi, à l'époque. J'avais aucune idée de quoi je m'embarquais encore, mais voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça a ouvert une porte que je me serais certainement jamais autorisée à ouvrir. Parce que là encore, le fait d'être capable de finir une distance pareille, bon, bah, m'a ouvert des horizons que je ne soupçonnais pas. Donc là, tout ce qui a été ultra, en parallèle, je commence un peu le trail. Donc, on mixte longue distance et trail, bah, voilà, c'est le début du grand n'importe quoi. Donc, on commence à rencontrer, mais c'est vrai, après, c'est des questions de rencontres, de gens qu'on croise, et puis on se dit, mais attends, je suis très souvent en mode, attends, si lui y arrive, c'est lui ou elle, hein, y arrive, ah, bah, attends, mais je peux le faire. Ouais, donc du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans mes premières courses dans le désert, en fait. C'est plus de rencontrer des gens comme moi, qui m'ont fait me dire, bah attends, s'ils y arrivent, je vais y arriver.
Donc, tu as quand même ancré en toi cette dimension un peu de challenge et de repousser tes limites et de toujours chercher à aller un peu plus loin.
Ah oui, très clairement. Oui, oui, non, il y a eu une époque où l'idée, c'était, c'est clairement de sortir de sa zone de confort, c'est une chose, mais surtout d'aller me prendre une claque, c'est-à-dire de chercher où j'allais prendre la claque. Et je rassure tout le monde, je l'ai prise. Je sais où elle est.
Ça a été quoi la course la plus marquante, qui a été la plus peut-être délicate pour toi?
Alors, celle où j'ai vraiment compris que c'était pas pour moi, c'est le track 1560 en Australie. C'est pas le fait que ce soit en Australie ou quoi que ce soit, c'est que c'est trop long pour moi. Voilà. 9 étapes, non. Il y en a 2 trop. Voilà. Il y en avait 3 de trop. J'ai pas le mental ou j'ai pas le physique ou j'ai pas les deux. Ça a été des rencontres incroyables sur cette course. Vraiment, des amitiés qui sont nées là-bas et tout. Ça, voilà. Et oui, je me suis plantée. Mais ce n'est pas le problème, c'est-à-dire que je ne regrette absolument pas. Et je n'ai absolument pas l'intention d'aller prendre ma revanche.
Voilà. Chacun donc, reste chez soi.
Ouais, non, il y a des trucs où c'est comme ça, quoi. Je le regrette, hein, mais... Enfin, je le regrette. Non, je ne sais pas, je pense qu'on a chacun... J'ai tenté aussi le Tour des Géants. C'est pareil, ce n'est pas pour moi.
Donc ça, c'est des apprentissages à chaque fois pour toi, cette aide à préciser ce que tu as envie de faire et puis là où il ne faut pas que tu ailles.
Oui, exactement. Parce que il y a une question de notion de sortir de sa zone de confort et de tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il ne faut pas non plus que ça devienne vraiment une corvée, que ça devienne carrément dangereux. Ce qui a été le cas sur une ou deux courses que j'ai pu faire, où là, je me suis vraiment mise en danger. Donc voilà, maintenant, ce que je disais au tout début, enfin, je reste aussi une mère de famille qui a 4 gamins et qui veut voir ses petits-enfants. Donc on va se calmer 2 minutes, quoi.
Est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection ou ton plaisir il vient justement de un peu mélanger et aller un peu au gré de tes inspirations du moment et construire peut-être un calendrier un peu hétérogène pour aller chercher des expériences très différentes?
Ouais, alors très clairement, moi, c'est les courses en étapes où je m'éclate le plus. Les non-stop, je m'en suis rendu compte. Enfin, 100 km en non-stop, oui. 200, ça commence à être un peu plus compliqué. Et j'en ai pas forcément envie. Alors que les courses en étapes restent, à mon avis, les plus accessibles, et je mets ça entre guillemets, on est bien d'accord, hein. Mais sont celles où je suis le mieux parce que j'ai des qualités d'endurance et d'endurance physique et mentale. C'est-à-dire que l'ouvrage sur le métier tous les matins, j'en ai les capacités pendant 6 jours. Pas 9 donc, mais 6, oui. Donc, et puis ça va, c'est un ensemble, c'est des expériences. 6 jours dans le désert, c'est quand même un truc assez unique, quoi, à vivre aussi.
Comment est-ce que tu structures tes années, enfin ton calendrier? Est-ce que tu te dis que chaque année, il faut que tu vives une expérience particulièrement marquante ou dans un endroit où tu n'as jamais eu la chance d'aller jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as besoin de défis sportifs systématiquement? Est-ce que tu aimes bien retourner dans des courses que tu as aimé faire? Comment est-ce que tout ça s'organise et comment est-ce que tu composes aussi avec la réalité de ce qu'est une vie de famille, même si tes enfants sont grands, c'est, j'imagine, un peu plus simple. Mais comment est-ce que tout ça prend place et qu'est-ce que toi, tu cherches?
Oui, bah justement, enfin c'est ce que tu soulèves et ce qui est une réalité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi d'organiser une année puisque le petit dernier est absolument ravi quand maman se casse. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas.
Tu es sûr que dès le samedi soir, il y a les 45 copains à la maison avec le DJ et
la
boule disco?
Ouais, on sent que... Tant que maman laisse une carte bleue, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vrai que vraiment au niveau organisation, c'est tout de suite un peu plus facile aujourd'hui que ça n'a pu l'être clairement il y a 10 ans quand je montais des gros projets. Maintenant, oui, j'ai mes courses doudou. J'appelle ça mes courses doudou, donc mes courses où j'y suis tous les ans.
C'est pas tes charentaises, c'est tes doudous, c'est autre chose.
Ah mais ouais, c'est exactement ça, j'aime bien, ma voiture sait y aller toute seule, je retrouve les copains, c'est un peu des rendez-vous, et donc en gros, Trail Verbier-Saint-Bernard, pour dire les choses, un peu le sentiment que si je débute pas l'été avec eux, ça me fait bizarre, et après oui, j'essaye toujours qu'il y ait une ou deux courses par an qui soient un peu des objectifs. Enfin, des objectifs, ouais. Des gros trucs qui vont être de la découverte. Ouais. Donc, là, clairement, si tout se passe bien, je serai en Jordanie en fin d'année, qui est un désert que je ne connais pas, que je rêve de faire depuis très longtemps. Et voilà, c'est mon grand truc de l'année. C'est quand même très difficile d'être à plus de 2 ou 3 grosses courses par an. Il faut quand même être lucide, je veux dire, même si pour moi c'est un travail, je vieillis, hein, donc, et voilà, donc il y aura ça. Non, par contre, ouais, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, oui, je suis nettement plus capable de dire, bah voilà, je vais y aller, mais je vais faire une distance plus courte, tant pis. Alors que oui, il y a 5 ans, je me serais forcément alignée sur les longues distances.
Tu as commencé à nous le dire, parmi les points forts que tu as autodiagnostiqué, il y a ton endurance à la fois physique et mentale. Est-ce que tu vois d'autres aspects sur lesquels tu penses que tu étais bien loti par la nature ou en tout cas sur lesquels des talents que tu as su développer et puis peut-être des choses qui sont moins naturelles pour toi?
Après, oui, il y a quand même des choses où là, pour le coup, il se trouve que je supporte plutôt bien les grosses chaleurs. Donc, mais ça, je n'ai pas le sentiment de m'être entraînée pour ça. Hein, donc, c'est des choses que tu découvres. Après, oui, c'est le côté peut-être un peu têtu pour certains trucs, en sachant que vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas capable de me faire aussi mal que j'ai pu le faire à une époque, très, très, très honnêtement. Quand j'y réfléchis, il y a des choses que j'ai faites, que j'ai acceptées il y a quelques années, qu'aujourd'hui, je ne serais plus capable d'accepter, tout simplement. J'ai beaucoup moins de problèmes avec ça, de me dire, bah non, là, je mets clignot, on arrête. Ça ne m'intéresse pas d'aller vers autant de souffrances. Maintenant, oui, l'avantage aussi, c'est que, à l'inverse, justement, comme je me connais très bien, je sais de quoi je suis capable aussi. C'est-à-dire, je sais quelle est ma capacité d'encaissement, je sais aussi à quel point ça peut être cyclique. Tous ces trucs-là, quand tu les as vécus sur des longues distances, tu le sais, c'est-à-dire que tu sais que tu as des moments où tu vas être vraiment pas bien, à la ramasse, assis sur un gros caillou en demandant qu'on t'achève. Mais tu sais aussi que que le lendemain, ça va aller. Les ampoules, tu sais que sur plusieurs jours, le deuxième jour, ça peut être l'enfer. Et pourtant, le quatrième, tu seras là en train de courir. Donc, c'est des choses que tu apprends qui sont le résultat d'une expérience acquise avec, bah, avec les années. Ça fait très Gandalf.
La grande sage.
La grande sagesse, tu sais. Ça me fait rire. Non, non, mais vraiment, très clairement, il y a ça. Ça aujourd'hui, ça joue. C'est-à-dire, je sais, je reste justement assez paradoxalement beaucoup plus dans ma zone de confort. Je me connais, je sais ce que je peux encaisser et ce que je peux faire. Donc, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup, Cécile, pour cette rapide présentation. On aurait pu y passer encore beaucoup, beaucoup de temps, mais il faut qu'on se jette tête baissée dans ta course épique. Mais avant ça, un des points de passage obligés, le premier checkpoint de l'émission, c'est la basket chinoise. C'est donc le format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, Cécile, si tu étais un personnage fictif, est-ce que tu serais Gandalf, justement, ou est-ce que tu serais quelqu'un d'autre?
Non, je serais Scarlett O'Hara. J'ai réfléchi à cette question. Et s'il y a une personne là qui... c'est Scarlett O'Hara. J'ai ce côté têtu des filles du Sud, alors que je suis bretonne. De quand même savoir ce que je veux et de vraiment tout faire pour y arriver.
C'est un film qui a bercé ton enfance?
Ouais. Ah oui. Que je connais par cœur. Autant n'importe le vent, c'est vraiment... Quand on parlait des trucs doudous, ça fait partie des trucs doudous. Et ouais, vraiment, enfin, c'est assez marrant, mais elle a une personnalité qui, je pense, me ressemble pas mal. Ça fera plaisir à ma meilleure amie si elle m'écoute. Mais ouais, taratata.
D'accord, Scarlett, donc.
Ah ouais, Scarlett.
Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il ?
Non, alors, elle m'a bien répondu, genre, panthère des neiges ou un truc unique, mais non, très honnêtement, c'est le chat. Je pense que s'il y a bien un animal dans lequel je m'identifie le plus, c'est le côté, c'est le chat.
Son indépendance?
Ah ouais. Mais, j'en ai trois, c'est pas par hasard. On en a trois à la maison, je peux pas vivre sans chat. Je suis une vraie mère chat. Je vais finir.
T'as combien de vies en plus? Un chat, ça a quoi? 7
vies? Oui, c'est ça, exactement.
Donc, il t'en reste 6.
Oh bah non, parce que j'en ai eu plusieurs. Quand justement, c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai eu plusieurs vies professionnelles, plusieurs vies personnelles, et ça me correspond vraiment très très bien comme animal. Totem.
Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, toute discipline confondue, qui serait une source d'inspiration ou d'admiration particulière chez toi?
Et bah, c'est là que c'est un peu plus embêtant, parce que je vais être très honnête, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est admiratif devant des sportifs. Très honnêtement, je pense que j'ai fâché avec plusieurs personnes en disant ça, mais non, vraiment. Enfin, c'est pas un domaine...
En termes de personnalité ou de conviction.
Voilà, il y a des gens avec qui, que je trouve, que je trouve sympa. Courtenay, oui, me plaît bien, évidemment, comme une toute femme, parce que c'est un profil qui est assez sympathique et tout. Mais je suis assez peu fan club, en fait. Très honnêtement, hein, je suis très sincère quand je dis ça. J'ai eu la chance, en plus, d'en rencontrer en vrai, c'est-à-dire ne serait-ce que dans notre univers du trail, d'en rencontrer, de les fréquenter, de discuter. J'ai eu des discussions passionnantes avec Xavier Thévenard, pour ne citer qu'un nom comme ça. Mais il n'y a pas cette notion de fan ou d'admiration. Je l'aurais pour des personnes, des médecins, des gens de cet univers-là, mais pas forcément dans le domaine sportif. Je suis désolée de répondre ça, mais je préfère
être... Mais c'est tout à fait une bonne réponse, tu es tout à fait libre.
Voilà, je préfère être honnête, mais je serais plus admirative presque, si tu veux, pour des aventuriers ou des trucs. Ouais, voilà, ça me parlerait plus. Je suis en train de lire le livre de Rémi Camus, qui a donc à travers l'Australie, avec sa petite carriole et des choses comme ça, il y a plusieurs personnes dans le même genre. Ça, ouais, plus, peut-être pas fan, mais admirative, ouais.
Admirative,
ouais. Ouais.
Merci beaucoup, Cécile, peut-être frotter à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique en Antarctique. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas déflorer à ce stade de l'épisode des éléments de présentation de ta course épique, d'autant plus que tu vas en réalité nous en faire vivre deux pour le prix d'une aujourd'hui.
Ouais.
Double ration, double dose. Ouais. Voilà. Il ne manquera plus que la dose de rappel après la troisième dose. Une chose est sûre, par contre, tu ne vas pas échapper à ce grand classique qui est la question qui pique. Donc là, j'ai mis entre parenthèses sur mes notes petit rire sadique. Donc c'est le moment où je glousse. Mais non, ça se veut être très bienveillant. On va passer aujourd'hui donc à cette rubrique qui va être un vrai faux et qui, quelle surprise, va concerner le septième continent qui est l'Antarctique. Est-ce que tu es prête pour cette question qui pique, Cécile?
Ouf, oui, vas-y.
Tu as bien accroché à ton fauteuil?
Ouais.
Je mets un peu en tension, mais ça va être presque décevant après, tellement ça va pas être simple, je pense. Première question de ce vrai faux. Il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique?
Par rapport à la France?
De manière générale.
Oui. Non, je crois pas, ouais. Ouais, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas le souvenir parce que forcément, nous, on était sur le fuseau d'Ushuaïa. Oh, bah alors là, la bonne question.
Je vais prendre en compte ta première réponse intuitive qui était la bonne, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a, pas de fuseau horaire, en fait. Donc, c'est assez étonnant parce que dans un monde qui est obsédé par le temps qui passe comme le nôtre aujourd'hui, l'Antarctique ne se soumet pas vraiment à la tyrannie des horloges et adopte une attitude qui est assez désinvolte avec ce sujet-là. Elle est en fait à la confluence donc, de tous les fuseaux horaires du monde et donc en théorie, ce devrait être celle de chacun d'entre eux. Mais en réalité, ce continent reste détaché des contraintes horaires rationnelles et utilise une méthode qui pourrait être inhabituelle, n'en reste pas moins très efficace, qui consiste à choisir son fuseau horaire opérationnel. Donc les scientifiques, qui sont évidemment les plus exposés au sujet et qui travaillent sur place, ils vont généralement dans le fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Donc ça peut causer quelques problèmes, on imagine, tu vois, quand on prend toutes les stations du Chili, de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni trouver sur place. Ça peut rapidement être le bazar quand il faut organiser une réunion de crise et tous se parler au même moment sur les différents fuseaux horaires. Mais voilà, en tout cas, la réalité, c'est que c'est ça. Donc chacun voit un peu midi à sa porte.
oui, c'est ça.
Et donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de fuseau horaire en Antarctique. Je suis très heureux de t'accorder ce premier point. Bravo Cécile, tu en es sortie haut la main. Et je pense qu'avec la deuxième question, ça va aller très bien aussi. En Antarctique, pour lutter contre le froid sur leurs membres, les coureurs mettent à profit la faune locale et ils utilisent des manchots de compression.
manchons. Mais
j'ai pas pu résister. Je m'excuse.
Ouais, les manchons et donc les manchots et pas les pingouins.
Donc c'est faux, effectivement. C'est pas des manchots de compression. C'est bien des manchons et je pense que même des manchons de compression, c'est pas tout à fait adapté avec les températures. 2 sur 2. Ouais. On continue. Je sens que ça va être un grand chelem. L'Antarctique a connu dans l'histoire des températures qui étaient identiques à celles de Sydney en hiver. Sydney en hiver, c'est 17 degrés à peu près pour te donner un ordre d'idée.
Ouais.
Possible
alors,
ou pas
bien qu'il y ait le réchauffement. Possible. Moi, je dirais possible.
Ah, c'est vrai. Bravo. C'est, ouais. En fait, donc, ça peut être étonnant parce que la température la plus froide jamais enregistrée sur le globe l'a été en Antarctique avec moins 89 degrés. Mm. Donc, c'est pas forcément intuitif d'imaginer qu'il peut aussi, à l'extrême inverse, avoir fait un peu plus chaud et au-dessus de zéro. Et en réalité, l'Antarctique était même autrefois presque aussi chaud que l'est donc Melbourne en hiver aujourd'hui. Les chercheurs ont estimé il y a 40 ou 50 millions d'années, donc on n'était pas là pour le vérifier, mais que les températures de l'Antarctique pouvaient aller jusqu'à 17 degrés et ils ont même trouvé des fossiles qui montraient que l'Antarctique était autrefois couverte de forêts vertes et verdoyantes et qu'elles avaient été habitées par des dinosaures, figure-toi. Le savais-tu?
Ah non, ça, le coup des dinosaures, non, ça, je savais pas.
Alors, je l'ai appris aussi en préparant l'émission.
Mais je savais qu'il y avait une histoire, oui, de changement climatique à ce niveau-là, mais alors, qui en était jusqu'aux dinosaures, ça, franchement?
On en apprend tous les jours avec Conseil, tu vois, c'est encore mieux que question pour un champion. J'ai ma reconversion toute trouvée. Bravo en tout cas, tu as su rester de glace et garder ton sang-froid, Cécile, pour ne pas tomber dans les pièges que je t'ai diaboliquement tendus et ça n'a pas l'air de te déplaire.
Voilà,
le grand chelem. Allez, on va passer maintenant enfin à ta course épique en Antarctique. Je te propose à nouveau de rembobiner le temps, mais un tout petit peu moins loin que la première fois, et puis de nous plonger dans le vol qui t'a mené jusqu'à New York un jour d'octobre 2007. Et qui, finalement, au gré des échanges que tu avais eus en amont de ce vol, t'a permis de prendre connaissance d'un bouquin qui a, a posteriori, un peu changé ta vie et puis qui t'a lancé sur des nouveaux défis. Est-ce que tu peux nous raconter quel était le premier de ces défis?
En fait, ce qui s'est passé, je pars à New York. J'ai découvert quelques temps avant, via un livre que j'ai lu dans l'avion, l'existence d'un club qui s'appelle le Seven Continents Club, donc qui, comme son nom l'indique, est le club des 7 continents. Donc, ce sont les personnes qui ont couru un marathon sur les 7 continents. Évidemment, il n'y en a pas 7, je le sais. je précise. Le club est américain. Ils ont séparé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui, en soi, n'est pas hyper choquant non plus. Et l'Antarctique est donc souvent appelé le 7e continent. Le premier Français à être rentré dans ce club a écrit un livre moi j'ai découvert via un site, un forum, Courir le Monde, pour ne le citer. Je lis ce livre dans l'avion et en fait, le marathon de l'Antarctique m'arrête. C'est-à-dire que je découvre d'abord quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et il y a eu un coup de cœur immédiatement à lire, pas du tout pour l'histoire de la course en elle-même, qui en soi reste, on va dire, 42 km de trail blanc, hein, pour dire les choses, c'est pas plus, pas moins. Mais c'était tout ce qu'il y avait à côté qui m'a parlé. Le fait que tu passes une semaine en Antarctique avec des gens du monde entier qui ont tout un point commun, c'est d'avoir voulu courir un marathon là, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est là que ça, l'histoire a commencé. C'est-à-dire que donc je termine New York, sous les 4 heures, tout va très bien et tout. Et c'est en rentrant que je me dis, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie de faire ça moi aussi, de le vivre, mais tout ça demande de trouver des sponsors. Parce que j'ai pas gagné au loto, j'ai gagné un concours en New York, mais j'ai pas gagné au loto pour autant. Et donc il faut que je trouve des fonds. Et c'est comme ça qu'en fait tout s'est imbriqué. Enfin, ça a été étape par étape. Il faut trouver des sponsors. Donc pour trouver des sponsors, j'ai très vite compris qu'il fallait un storytelling. 7 marathons, 7 continents, quitte à le faire, autant faire tout, enfin, les 7 continents. En 80 jours, ça parle à tout le monde. Je suis née à Nantes, Jules Verne, hommage, paf, paf, patate, enfin, voilà. C'est vraiment ça, hein, ça s'est construit comme ça. Il fallait un chiffre qui parle à tout le monde. Et ça a vraiment été le cas, d'ailleurs. Donc, voilà, je commence par ça. Je décide que le marathon de Paris sera mon dernier.
Tu peux justement nous expliquer le principe. En gros, il y a toute l'attitude, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir créer son propre parcours sous réserve qu'on passe bien par un marathon sur chacun des 7 continents, un marathon officiel.
Voilà. Et ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'il faut que ce soit des marathons officiels validés par les fédérations. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose que ce dont on parle très souvent aujourd'hui, parce que c'est devenu, pas la mode, j'exagère, mais il y a eu beaucoup de communication sur les 7 marathons, 7 continents en 7 jours, dont on a vu passer pas mal d'articles. Ça, c'est pas possible. C'était pas possible pour moi, tout simplement, parce que ce sont des marathons qui sont organisés autour de l'aéroport. Vous faites 42 bornes, vous remontez, mais c'est pas des marathons validés. Moi, mon gros problème, et ça a été plus compliqué que je ne le pensais, c'est qu'il me fallait des marathons validés par les fédérations. C'est-à-dire que, fallait un vrai marathon normal, quoi. Mais quand vous courez 80 jours dans l'hémisphère nord, le problème, c'est que l'hémisphère sud n'est pas sur la même saison. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air, en fait, cette blague. Donc moi, je suis partie avec Paris comme dernier marathon. 80 jours en arrière, ça me met le jour de mon premier marathon. Et là, il faut remplir. Et ça a été très compliqué, en fait. Pour l'hémisphère sud, j'avoue que ça a été beaucoup plus compliqué. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au fin fond du Chili, sur un marathon. On était 40 au départ, complètement improbable, à quelques encablures d'ailleurs d'Ushuaïa, mais du côté chilien, à Puerto Montt, voilà, pour valider l'Amérique du Sud. Donc ça a été déjà épique de construire le planning, en fait. Et après, il faut concilier tout ça. À l'époque, justement, mes enfants étaient beaucoup plus petits qu'ils ne sont maintenant. Donc, je voulais pas non plus m'absenter trop longtemps. Donc, il a fallu jongler avec les voyages. Ça a été assez compliqué. Et puis, trouver les fonds, donc.
C'est un projet de combien de temps pour arriver entre le rêve et le moment où ça devient tangible et tu prends le premier avion?
C'était 2009. Je suis rentrée fin 2007, donc, et j'ai mis toute une année pour trouver les fonds. Je m'en suis franchement vachement bien sortie, je trouve, parce qu'on était à une époque. Faut bien avoir conscience que je ne pouvais pas vendre le fait que j'allais gagner les marathons de que c'est ça, c'était il faut vendre une amatrice qui envisage juste de finir et qui en plus ne pouvait même pas apporter la preuve qu'elle en était capable. Parce que là, on parlait d'un enchaînement de marathons que je ne savais pas du tout si physiquement j'en serais capable à l'époque. Je ne faisais pas d'ultra, je ne faisais pas de trucs comme ça. Donc, c'est.
Et tu ne pouvais même pas promettre des stories Instagram à tes partenaires.
Oui, voilà, il n'y avait pas Instagram.
3615 code Cécile Bertin. Voilà, c'était ça l'activité que tu peux leur donner.
C'était un peu ça. Mais à peine. Donc, et j'ai vraiment eu, pareil, beaucoup de chance. Mais la première fois que je suis vraiment sortie de ma zone de confort, c'est là. Parce qu'aller réclamer de l'argent à des gens que vous ne connaissez pas, c'est violent. Hein. J'arrivais déjà pas à négocier des augmentations avec mon patron qui me connaissait. Donc, autant dire que bonjour, payez-moi mon marathon en partie, que c'était pas triste. Et puis, après, ça se fait, mais c'est compliqué.
Il se trouve que tu es la première Française à prétendre, en tout cas, à intégrer ce Seven Continents Club. Est-ce que c'est pour toi un vrai driver ou c'est complètement anecdotique dans ta démarche ?
Ah, c'était... Oui, non, c'était anecdotique, en fait. C'était plus pour parler un peu sa première Française. Voilà, c'était presque le hasard qui faisait les choses. Par contre, ce que je ne savais pas et ce que je regrette presque maintenant, aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire... J'ai aussi été la première personne au monde, je tiens à le dire, à être entrée aussi vite dans le Seven Continents Club. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais eu personne à le faire aussi vite. Ce qui fait que quand je suis allée en Antarctique avec l'organisateur, donc avec le créateur du club qui était là, les Américains qui étaient là, tous étaient persuadés que je venais pour le Guinness des records. Alors que, moi je ne le savais même pas. Je ne m'étais pas posé la question en fait. Donc vraiment, ils m'ont tous dit « Mais pourquoi t'as pas fait valider ça par le Guinness des records ?» À ce moment-là, ça relevait du Guinness. Ouais. Donc, c'était assez marrant.
Est-ce que tout ce projet que tu as construit, on imagine bien que tu dois avoir évidemment beaucoup de bénéfices à aller courir sur ces différents continents. Est-ce que tout ça, malgré tout, c'est la clé d'entrée pour te donner accès à ce rêve qui est de courir sur l'Antarctique ? Est-ce que c'est vraiment ça le sujet ? Et puis, si oui, enfin même au-delà de ça, même sinon d'ailleurs, quel imaginaire pour toi ça nourrit l'Antarctique à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu projettes dans cette envie-là ?
Ah oui, très clairement, ce qui me faisait rêver, c'était l'Antarctique. Enfin, c'était vraiment ça la clé. Je pense qu'on est beaucoup d'abord parce qu'on a des images en tête, les icebergs, la glace, les animaux. On s'est tous plus ou moins endormis devant le Commandant Cousteau le dimanche après-midi, je pense. Pas de ma génération, en tous les cas. Donc, c'est pareil. On a tous ça dans l'inconscient. C'est dans notre inconscient collectif, ce continent. Et on a des images. J'avais des images. Aujourd'hui, j'ai des sons qui sont revenus parce que c'est le son de ce continent est vraiment très particulier. Le bruit de la glace qui se brise, qui craque et tout. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment unique à vivre. La rencontre avec la faune que j'imaginais pas aussi forte, vraiment quoi, la première fois que vous voyez qu'une baleine et son baleineau vient frôler votre zodiaque, on s'est tous retrouvés à pleurer quoi, vraiment, c'est-à-dire que il y a eu une espèce d'émotion qui m'a prise alors que j'aurais jamais imaginé ça, vivre ça. Il y a eu tout cet ensemble, ce qui fait qu'il y a eu 42 bornes le premier jour, mais c'est complètement... c'est presque anecdotique dans le souvenir.
Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la course en elle-même qui, effectivement... Enfin, c'est ce que tu le dis, c'est ça, c'est la course, c'est une des composantes, finalement, d'une expérience qui est beaucoup plus globale et qu'on peut faire, d'ailleurs, qu'on peut vivre de plusieurs façons. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as décidé de vivre cette semaine-là ? Voilà, on reparlera un petit peu plus de la course juste après, mais déjà dans son contexte général, projette-nous dans la réalité sur ton bateau là-bas, comment tout ça s'est organisé ?
Ouais, déjà il y a tout un périple parce que vous prenez le bateau au Ushuaïa. Le principe en fait de ce marathon, c'est tout simplement vous faites une croisière, c'est une croisière classique en Antarctique. Hein. Ils n'affrètent pas un bateau spécialement pour ça. Il se trouve qu'on le remplit avec juste des marathoniens, mais c'est un brise-glace russe classique qui sert à faire les croisières là-bas. Ce qui sous-entend une chose qui est quand même très importante, c'est que c'est le capitaine qui est maître à bord. Donc, c'est le capitaine et non pas l'organisateur qui va décider si on met les zodiacs à l'eau le jour de la course. Ce qui est quand même un truc qu'il faut avoir en tête. Mais,
donc, la probabilité existe concrètement que tu ne puisses jamais fouler le sol.
Ouais, et c'est déjà arrivé. Donc, que le marathon n'est pas pu parce que les conditions météo n'étaient pas bonnes et que... il n'y a pas de possibilité de changer le plan de navigation. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est des choses qui arrivent. Vous passez le Cap Horn, quand même, quoi. Je veux dire, c'est quand même juste un peu mythique. C'est, pour aller courir. Et puis, le premier jour, donc, on court sur King George, qui est une des plus grosses îles de l'Antarctique, sur laquelle il y a plusieurs bases scientifiques. Donc, c'est très drôle parce que, les scientifiques viennent courir avec vous parce qu'on est un peu l'attraction de l'année, on va dire. Et ça, c'est vraiment, ça fait une ambiance super sympa. Il y avait moi aussi, il y avait une militaire chilienne, en fait, il y avait une frégate chilienne qui était là et qui sont venus courir avec nous. Donc voilà, il y a une espèce d'ambiance assez... assez dingue, complètement surréaliste. La base chinoise, on passait par la base chinoise qui avait sorti une table de camping avec des Tsingtao et des capsuleurs pour pouvoir se payer une bière sur le parcours. Enfin bon, voilà, cette espèce d'ambiance complètement surréaliste. Forcément, il y a les manchots, non, qui sont là. Parce que les seuls spectateurs, ça va être les deux chercheurs qui sortent de la base rapidement pour vous applaudir et qui se remettent au chaud. Et puis les manchots qui courent avec vous, parce que ça les éclate de voir des gens qui courent. Donc ça, c'est quand même une expérience qui est complètement dingue. Enfin, à vivre, ils n'ont pas peur de nous. Donc, ils sont vraiment très curieux en plus. Donc, ils viennent nous voir.
Est-ce que l'organisation, vous avez donné quelques consignes justement, ou des points de mise en garde en particulier? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire spécifiquement attention quand on fait un marathon comme celui-là?
Non, il n'y a pas spécialement, enfin, par le fait que, voilà, il fait froid et que vous avez intérêt à prévoir les chaufferettes, hein, quand même. Non, en fait, ce qu'il y a de vraiment très compliqué en Antarctique, c'est le changement de météo qui arrive vraiment d'un claquement de doigts. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on a vécu sur notre édition. C'est-à-dire, j'ai eu un premier semi ensoleillé, superbe, qui fait qu'on avait froid, mais un froid sec, donc tout à fait supportable, et en un claquement de doigts. Mais vraiment, hein, quand je dis c'est un claquement de doigts, j'ai toujours des photos où on a l'impression que j'ai changé de continent, quoi. Et j'ai l'horaire des photos. Je sais à quelle heure elles ont été prises et ça s'est fait en 2 minutes et on est passé avec du brouillard, de l'humidité. Le froid est beaucoup plus saisissant. L'eau gèle dans les flasques. Ça devient des granités assez vite. Donc voilà, c'est des choses comme ça dont il faut avoir conscience. Après, on s'organise, hein, mais. C'était quand même assez épique à vivre. Il y a l'obligation d'avoir des yak tracks puisqu'on a des parties glacées, mais bon, voilà, c'est des contraintes qui sont liées à des courses dans le grand froid. Les gens qui courent en Alaska auront les mêmes si on part comme ça. Enfin, voilà, c'est à peu près toujours un peu la même histoire de la gestion du très grand froid. Donc, c'est plus vraiment la rencontre avec les animaux où il faut à la fois il ne faut pas leur faire peur. Donc, on a tous tendance, puis de toute façon, c'est tellement drôle qu'on a tous tendance évidemment à ralentir pour surtout pas les brusquer, enfin, ou leur faire peur, quoi. Et dès que vous ralentissez, ils se mettent à votre niveau et ils courent à côté de vous. C'est incroyable. C'est vraiment des grands moments de rigolade. Et voilà, enfin, c'est 42 km assez hors norme quand même à vivre, et puis surtout derrière, vous continuez la croisière, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, beaucoup de gens ne le savent pas forcément, il y a 2 marathons en Antarctique aujourd'hui qui sont organisés, et donc c'est l'organisation que j'ai faite, qui est donc le premier jour le marathon, et derrière une vraie croisière normale de touristes lambda entre guillemets, même si on n'est jamais un touriste lambda en Antarctique. Et l'autre qui est organisé, vous prenez l'avion. Donc déjà, ce marathon coûte 3 fois plus cher, alors que déjà le mien est cher, mais là, il coûte encore 3 fois plus cher. Et donc vous montez dans un avion, on vous pose sur le continent, vous courez 42 bornes autour de l'avion et vous remontez dedans et vous repartez. Voilà. Concrètement, il peut y faire un peu plus froid puisqu'on est plus dans les terres, ce qui est logique, mais il n'y a pas d'animaux par exemple. Puisque là, on est vraiment dans les terres. Les animaux, ils sont au bord de l'eau, parce qu'ils sont là où ils peuvent manger. Donc, tout ce qui a fait mon bonheur, je ne l'aurais jamais eu si j'avais fait l'autre marathon.
Tu nous l'as bien vendu, en tout cas, ce deuxième marathon-là.
Oui, je crois que là, ils vont être contents.
On a bien compris le choix qu'il fallait faire. Je pense qu'il y a un contrat sur toi maintenant de la part de l'organisation.
À mon avis, si je leur demande un dossard presse, ce n'est pas gagné. non mais voilà, enfin, pour moi je préférais ça, et puis ça s'est confirmé.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de cette expérience de marathon là en Antarctique, ces 42 km? Qu'est-ce qui a été une surprise notable pour toi? C'est principalement ce que tu as évoqué avec les manchots et ces rencontres là
ouais. Ah oui, c'est vraiment, et c'est la découverte de ce continent qui est vraiment un endroit à part. Je pense que tous les scientifiques, enfin c'est assez drôle, mais il s'y passe quelque chose qui est assez inexplicable dans l'avion. L'histoire est vraie, hein, l'anecdote. Voilà, dans l'avion, je me retrouve avec un voisin qui parlait un peu le français, il était libanais, donc il parlait très bien français. Et on discute un peu. Le type est capitaine de bateau. Et à la base, il envisageait de travailler en Méditerranée. Il est libanais, pour lui, c'était évident, quoi. Et puis, il a fait un stage, pas le choix, il s'est retrouvé genre pendant 3 mois à être envoyé sur l'Antarctique. Et ça a été une telle révélation qu'il n'est jamais reparti en Méditerranée. Et donc, le Libanais, qui rêvait d'eau chaude, est resté et se faisait toute la saison en Antarctique. Et il me disait, mais je ne pourrais plus m'en passer. Enfin, j'ai besoin d'y retourner. Et c'est quelque chose que je peux comprendre, puisque donc, j'y suis retournée.
C'est voilà. Donc la genèse de ta deuxième expérience.
Ouais.
Suite à ce premier marathon donc, et les quelques jours qui ont suivi, tu découvres une île qui visiblement porte très bien son nom et tu te dis que tu as quelque chose à écrire avec cette île.
Ouais, Paradise Island, c'est vraiment son nom, ce qui est quand même assez dingue. Et là, voilà, c'était la beauté pure de l'Antarctique. C'est-à-dire, tout y était. Tout. Et ça reste quelque chose qui vraiment me marque énormément. Et on est en mars, juillet suivant, je suis sur l'ultra de la Cimidée. J'en reparle avec la personne avec qui j'étais et je lui dis, mais Paradise Island. Et là, il me dit un truc, il me dit, mais tu sais qu'il y a une course qui passe à Paradise Island. Je dis, comment il y a une course qui passe à Paradise Island? Et il me parle de Racing the Planet, The Last Desert, donc, qui est le seul ultra en étape de 250 km organisé en Antarctique, dont je ne connaissais absolument pas l'existence.
C'est reparti pour un tour.
C'est reparti mon kiki. Là, je découvre que... ça va être très compliqué parce que le nombre de places est également évidemment très limité puisque c'est un bateau point barre, ça ne peut pas être plus. Pour compliquer la donne, il faut avoir validé deux déserts organisés par Racing the Planet, qui est un des plus gros organisateurs de courses en étape dans le monde, qui est assez peu connu en France, mais à l'international, qui est évidemment quasiment leader, je pense. Et il faut avoir validé donc deux déserts. Là, pareil, nouvelle problématique, il faut trouver des sponsors, puisque tout ça coûte toujours un rein, et j'en ai déjà perdu un avec mon premier défi. Non, mais voilà, il faut que je retrouve de l'argent.
Sachant que là, l'idée, c'est de ne pas faire une seule course par étape pour boucler la boucle, il faut en faire quatre.
Il faudrait en faire au moins deux sur les trois qu'il propose. Je découvre en me plongeant un peu là-dedans qu'il existe le Grand Slam, ce qu'ils appellent le Grand Slam, c'est-à-dire faire les quatre déserts en une année. C'est tous les deux ans. L'Antarctique n'est organisée que tous les deux ans. Vous savez quelle année c'est. Ça peut pas être. Donc on est en 2009. Il faut que il y a 2010, mars 2010 pour la première course. J'essaie en catastrophe de trouver les fonds que je ne trouve pas parce que là on est sur des sommes pareil, rebelote, on est sur un montant quand même qui est très élevé. Donc ça me reporte en 2012. Voilà. Et je vais mettre en réalité, je valide mes fonds. J'ai quand même fin 2010, j'étais bonne, je pouvais, c'était validé. Donc finalement, j'ai eu presque l'année 2011 pour me préparer, en tous les cas. Mon premier marathon des sables a été en 2011, dans le but de préparer 2012. Voilà. Et je suis partie, et donc en une année, alors là, ça a été une année totalement cinglée, vraiment, puisque donc j'ai fait ces quatre courses-là, en terminant donc en Antarctique. À l'époque, donc j'ai fait Atacama, Gobi, et Sahara, à l'époque c'était l'Égypte, avec une arrivée devant le Sphinx et les pyramides de Gizeh, ce qui est quand même pas donné à tout le monde non plus, comme genre d'arrivée. Et donc, en 2012, j'ai fait aussi le Marathon des Sables, j'ai fait l'UTMB et j'ai fait, en tout début d'année, j'ai fait une course d'entraînement de préparation en Inde qui ne faisait que 200 km. Voilà, donc c'était complètement dingue cette année-là.
Est-ce que tu te souvenais où tu habitais à ce moment-là, cette année-là?
Oui, voilà, non, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été une année assez dingue.
C'est un projet sur lequel vous êtes très peu de courant, hein, c'est ça? Vous êtes une quinzaine à vivre ça?
Oui, voilà, c'est-à-dire que le Grand Slam, oui, c'est à peu près... Et encore cette année-là, les 15, c'était la première fois qu'ils en avaient autant. Et c'est assez dingue parce que voilà, ce petit groupe de coureurs, on a eu le sentiment de passer un peu l'année ensemble. Je dis souvent, mais c'est vrai, c'est-à-dire que on a passé plus de congés ensemble, parce que bon, ça reste quand même des congés, hein, se calmer, mais pas l'usine non plus, hein, entre nous qu'avec nos propres familles. Hein. Concrètement, ça donne ça. Et puis, bah, voilà, on se retrouvait en Antarctique de nouveau, quand vous avez toute une année qui a tourné autour de cet aboutissement-là, que vous rajoutez de retrouver ce continent qui est quand même assez incroyable, ça a été de nouveau une expérience d'une force inouïe. Et alors, même règle que pour le marathon, c'est le capitaine qui décide si on met le Zodiac à la mer. Et vous savez que vous ne pourrez certainement pas faire les 6 étapes parce que la météo stable pendant 6 jours non-stop en Antarctique, c'est assez rare. Et alors, le truc quand même très drôle, c'est que l'étape de Paradise Island a été annulée pour cause de météo.
Donc là, tu avais envie de sauter voilà. Par-dessus bord, c'est ça?
J'ai fait ça. Ah, mais ouais. J'ai fait tout ça pour retourner à Paradise Island.
Des paradis perdus.
Je n'ai pas pu courir. Non seulement je n'ai pas couru, mais je ne l'ai pas vu parce que la météo était telle qu'on est resté au large, on ne pouvait pas s'en approcher. Donc, en plus, vraiment, c'est ça qui est assez dingue quand on y pense. Mais aucun regret quand même parce que...
C'est l'expérience au fil de l'année a dû être tellement mémorable.
Ah bah c'est complètement fou. Heureusement que j'ai des photos souvenirs, hein. C'est ce que je dis, parce que c'est-à-dire qu'il y a presque une partie de moi qui n'arrive pas à encore croire qu'elle a fait ça.
Est-ce que tu peux nous raconter quand même dans les grandes lignes ces 6 étapes, ces 250 km en Antarctique en dépit de la désillusion de ne pas avoir pu accéder à Paradise Island? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as vu des choses différentes de ta première expérience sur le marathon?
Alors oui, j'ai vu des choses différentes. Alors c'est assez terrible ce que je vais dire, mais du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le marathon avant. Parce que là, pour le coup, j'ai surtout couru. Alors que la première fois, ça avait donc été la croisière s'amuse tout le reste du temps. Voilà, il faut quand même dire les choses. Là, forcément, il fallait les faire, les distances, tous les jours, quoi. Donc, il y avait des étapes qui tenaient plus de hamster sur neige que de course en elle-même. Puisque à chaque fois, c'est lié aux autorisations obtenues sur une parcelle de l'île ou du continent. Enfin bon, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est plus une expérience unique. Et là encore, de rencontre. Le fait qu'on va vivre en communauté, c'est sur un bateau, c'est plus sur un camp, mais c'est sur un bateau. Et c'est rebelote, on a... les manchots qui sont avec nous. Enfin, il faut être prêt à accepter ça, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à accepter que la course s'arrête parce que, par exemple, les manchots ont décrété qu'ils passaient dans notre trace. Et donc, évidemment, on a interdiction formelle de les perturber.
Parce qu'on peut se dire que c'est même les coureurs qui marchent un peu dans leur trace, a priori.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, donc, c'est vrai que ça fait des... C'est très particulier. Je pense que vraiment une personne qui est obsédée par son chrono, qui est là pour la perf ou machin, d'abord il va s'emmerder, dire les choses vulgairement mais très clairement, parce que c'est pas ça le but, vraiment je pense. On est tous là dans l'idée de vivre une expérience assez unique, donc il faut faire très attention. Il y a énormément de règles évidemment. On doit vraiment rester dans des zones très limitées, puisqu'il ne faut pas non plus abîmer la nature et tout. Donc, ça reste quand même des courses avec des règles très compliquées à suivre. Je pense que certaines personnes ne seraient pas capables d'accepter non plus, forcément. Mais
le jeu en vaut la chandelle, sans quoi.
Ouais, parce qu'on se marre tellement. Enfin, c'est vraiment des grands moments de rigolade, quoi. Franchement, c'est ça, en fait. Moi, c'est ce que j'en ai retenu, quoi. C'est vraiment des fous rires à observer les animaux. C'est, c'est une solidarité entre les gens venant du monde entier, parce qu'on vient du monde entier. En une époque là, en ce moment, où c'est un peu compliqué, c'est toujours bon de rappeler que voilà, c'est plutôt ça, plutôt des moments comme ça. Il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus que des gens qui sont là pour kiffer le moment au maximum. Et c'est limite si on ralentit pas, hein, pour remonter le plus tard possible sur le Zodiac.
Parce que oui, à l'issue de ces 250 km que tu as fait en Antarctique, il y a bien un moment où c'est la fin de l'histoire. J'imagine qu'il a été très fort en émotion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une espèce de grand vide. J'imagine beaucoup de tristesse de quitter les gens avec qui tu as quand même passé une année, mais c'est aussi la fin de... On le sait déjà à l'échelle d'une course. Une course, c'est finalement tout un bouquin qui se termine et pas juste un chapitre. C'est beaucoup d'énergie, de pensée, de sacrifice pour soi et ses proches. Quand tout ça s'arrête, il se passe quoi?
Moi, ça a été... D'abord, on a tous pleuré. C'était assez terrible. Ouais, parce qu'il y avait ça. Il y avait vraiment... C'était vraiment valable pour les membres du Grand Slam, en fait. Parce qu'on a vraiment passé une année ensemble. Et c'est vrai que ce qui a été très fort à vivre, c'est de se dire au revoir et de se dire au revoir vraiment, parce que dans l'absolu, les Australiens sont rentrés en Australie, je ne les ai plus jamais revus. Alors qu'on avait vécu des moments assez forts, c'est assez bizarre parce que voilà, on vit des choses très très fortes avec des gens qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois et qu'on ne reverra certainement jamais. Donc c'est vrai que c'est assez assez particulier. On était à peu près tous dans la même configuration, c'est-à-dire des gens qui ont passé des mois et des mois pour réaliser ce rêve, parce qu'on était tous sponsorisés, donc c'est une énergie de dingue pour trouver les fonds. Il faut en avoir conscience, en tous les cas, ça ne tombe pas toujours en claquant des doigts, quoi. Donc, tu as toute cette pression qui retombe, en fait, et mêlée à l'émotion, la ligne d'arrivée, elle est montée, on a quelques drapeaux et tout, et c'est monté sur le continent Antarctique, c'est vrai que c'est quand même assez dingue comme ligne d'arrivée finale de tout ça, et de se dire, je suis au bout de quelque chose de fort. Ce qui est chouette, c'est que ça a été à la hauteur de ce que j'espérais. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que c'est pas toujours le cas.
Positif.
Ça a été que du positif, et puis derrière, ça a forcément enclenché beaucoup de choses chez moi. Ça a été de nouveau le début de quelque chose.
Avant de te projeter sur d'autres défis et d'autres aventures, comment est-ce que tu te reconnectes à la réalité après ça? Est-ce que c'est un exercice qui est très difficile et il faut beaucoup de temps? Ou est-ce que tu as retrouvé ta famille comme tu l'avais quitté, ton quotidien comme ça? Ou il a quand même fallu une adaptation?
Ouais. Alors c'est très compliqué, vraiment. Moi, je dis toujours que je suis contente d'habiter en province parce que je rajoute le sas du train avant de rentrer à la maison. C'est mes 2h30 de train pour replonger dans la vraie vie. Bon, l'avantage, c'est que j'ai des enfants qui me ramènent très très vite à la réalité, parce que on me tombe dessus en me demandant de faire les lessives parce qu'ils n'ont plus rien à se mettre. Donc tout de suite, je rebascule dans mon quotidien de maman et tout. C'est presque, et très honnêtement, c'est pas forcément très simple à vivre. On va pas se mentir.
Le fameux blues post-slam-tom.
Ouais, très clairement. Faut être très honnête, surtout quand c'est des projets qui durent une année, plus longtemps, puisque ce projet est né dans ma tête, clairement, on est en 2009 et ça s'est bouclé fin 2012. Donc c'est long quand même. Enfin, ça a été une petite portion entre guillemets de ma vie, quoi. Et c'est pas rien. Le retour à la réalité
est compliqué.
Comme
au Scrabble.
Ah oui,
voire même
complètement.
Plus.
Et non, c'est le blues, il est là. Et puis surtout aussi ce côté, mais qu'est-ce que tu peux faire de mieux derrière ça? Il faut, parce que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Enfin, je veux dire sincèrement, qu'est-ce que je peux faire de mieux que d'être allé courir en Atacama, dans un des plus beaux déserts et du monde, parce que c'est le cas. Je suis allée en Gobi, je suis allée courir chez les Ouïghours, puisque le parcours aujourd'hui a changé. Donc c'est quand même assez dingue, j'ai rencontré des populations et tout, parce que là c'est un désert, mais on a quand même aussi été en contact un peu avec les populations. Ce que je te disais, quoi, avoir une arrivée devant la pyramide de Gizeh, non mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire au-dessus de ça, enfin, donc il y a aussi ce côté-là, c'est de dire, mais waouh, maintenant je fais quoi?
Quelle réponse tu as trouvée à cette question?
Et ben la question en fait, c'est que justement, c'est que il faut faire le deuil de de toute façon tu pourras pas faire mieux, il faut que tu fasses différent. Mais il faut plus, enfin en tous les cas, moi ça a été, j'ai mis du temps. Donc, c'est pour ça que je suis allée me toquer à des distances plus longues pour voir. Je suis allée me toquer à des tours des géants, à des choses comme ça, pour essayer de voir. Mais il a fallu faire voilà, plus le deuil et me dire, bah, de toute façon, non. C'était ton Graal et tu l'as décroché et ça s'est bien passé. Savoure. Voilà. C'est vraiment ça, maintenant. Ça a mis du temps.
Ça a pris du temps, oui.
Ah ouais, très honnêtement, ouais. Ça a mis du temps.
C'est une question que je pose qui est impossible déjà quand je la pose à l'échelle d'une course. Donc j'imagine qu'à l'échelle de ces deux expériences en Antarctique qui s'inscrivent elles-mêmes dans un projet plus global, est-ce qu'il y a une image qui pourrait cristalliser tout ça aujourd'hui que tu chéris? Si je te parle de cette expérience, quelle est la première chose à laquelle tu penses?
Ah bah ma rencontre avec une baleine, ça c'est sûr. C'est vraiment ça. C'est assez drôle d'ailleurs. Le son, ça. Et puis la beauté de la glace. La beauté de la glace. Des icebergs. C'est le bleu de l'iceberg est indéfinissable. Et t'as vu, je suis bavarde. Hein. Donc quand je dis que je n'arrive pas à mettre des mots dessus, ça donne quand même une idée de la beauté du truc.
C'est un sacré révélateur, effectivement.
Voilà, exactement. Ouais, ouais, je pense.
Et justement, en parlant de révélation, qu'est-ce que ce défi t'a appris sur toi?
Déjà, oui, que j'étais capable de choses, parce que bon, si on en part comme ça, il y a quand même eu aussi l'enchaînement des kilomètres. Faut quand même être parfaitement honnête, hein, donc c'est dommage, je n'avais pas ce travail, hein, parce qu'à l'époque, je suis péter les stats, mais ouais, non, il y avait ça. Il y a aussi un truc que j'ai appris, hein, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire il y a eu aussi la gestion de tout ça, la gestion des voyages, le fait d'être capable aussi de partir seul, ce qui n'était pas aussi évident que ça, justement, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout voyagé enfant ni quoi que ce soit, vraiment, c'est-à-dire que enfant, même ado et tout. Le fait de partir à l'autre bout du monde dans un pays dont vous ne parlez pas du tout la langue. C'était le cas, par exemple, en Gobi, quoi. Tu te retrouves au fin fond de la Chine, pas toute seule, mais presque. C'est des choses qui sont... ça a été une sacrée école aussi, d'apprendre à se débrouiller toute seule, de gérer les vols annulés... c'était le cas pour le retour, je me suis retrouvée plantée, vol annulé, bloquée 24 heures, enfin tous ces trucs-là qui sont les aléas classiques du voyage. Mais j'ai appris ça aussi. Tous ces trucs-là m'ont donné une force qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur de pas mal de choses.
Et notamment des manchots qui courent vers toi. Enfin, tu ne dois pas en croiser tous les jours.
Ça. Non, non, et puis et j'espère surtout que pour mes enfants, ça a été une leçon aussi, finalement, de voir leur mère qui était à l'époque mère au foyer, hein, pour dire les choses. Quand j'ai tout commencé, c'était ça, hein, j'étais vraiment mère au foyer. C'est pas une vue de l'esprit. J'étais en congé parental pour m'occuper du petit dernier et j'espère que mes enfants, tout ce que je veux qu'ils aient retenu, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a un rêve, il faut se donner les moyens de le réaliser et de vraiment tout tenter pour. Voilà, de ne pas partir sur des regrets. Et j'ai aujourd'hui cette chance de pouvoir dire que si ça s'arrête demain matin, c'est pas grave. Hein. Ça,
attends la sortie de l'épisode quand même.
Ouais, voilà. Non, mais, par rapport à ne serait-ce que le sport ou des trucs comme ça, si demain matin, c'est toujours ce que je dis, quoi. Si demain matin, on me dit, tu pourras plus courir parce que j'ai des problèmes. Physique, si j'ai été arrêté en sport en seconde, c'est pas par hasard non plus. Donc pour l'instant, j'ai fait avec, mais je sais que ça va s'arrêter un jour, mais c'est pas grave, quoi. J'ai réalisé des rêves que j'imaginais même pas avoir. Donc c'est quand même pas mal.
Dernière question sur ton voyage en Antarctique. J'imagine qu'il t'a évidemment interpellé en profondeur sur l'impact de l'homme sur la nature, plus particulièrement. Enfin, j'imagine qu'il y a plein d'autres contextes dans lesquels tu as pu déjà y être sensibilisé. Qu'est-ce que cette expérience-là, elle a changé de particulier sur ta sensibilité peut-être aux enjeux environnementaux? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après?
Alors, c'est toujours le problème, je vais être très honnête. Le problème, c'est que je voudrais bien dire que je suis devenue ultra-écolo, mais ce ne serait pas vrai. Oui, le réchauffement climatique, je l'ai vu, ça c'est une évidence, parce que ne serait-ce qu'entre 2009 et 2012, je l'ai vu de mes yeux vus en Antarctique, ça oui, c'est vrai. Maintenant, je ne vais pas dire que je ne prends plus du tout l'avion et que je me baigne à l'eau de la rivière, puisque mon métier, c'est de voyager pour... ça fait partie de mon métier, les voyages. Donc, je suis très, très mal placée pour donner les leçons. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses... En fait, assez paradoxalement, j'ai été plus choquée, moi, de certaines choses que j'ai pu voir dans les déserts, presque que finalement en Antarctique où oui voilà ça fond, mais comme tu le dis ça a fondu avant. C'est vraiment moi ma sensibilité écolo, elle est presque plus née dans le désert, assez paradoxalement, dans les zones chaudes où j'ai vu des camps vraiment abandonnés avec une pollution que tu trouves au fin fond du désert. Ça m'a vraiment m'a un peu plus secouée en fait, assez paradoxalement. Mais je peux pas avoir... c'est ça le paradoxe, c'est de se dire... Le problème, c'est que si on n'y va pas, si on ne le voit pas de nos yeux et tout, on ne le réalise pas forcément. Donc, les scientifiques y vont. Non. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je suis assez mal placée et presque assez mal à l'aise pour répondre à cette question.
Merci beaucoup, Cécile. Merci d'avoir partagé avec nous cette course épique. On va juste parler un tout petit peu de projection à un peu plus long terme. Tu nous as parlé de ton calendrier de la fin d'année et ton rendez-vous en Jordanie qui s'annonce assez sublime. Je pense qu'on aimerait tous être à tes côtés. À plus long terme, est-ce qu'il y a encore un rêve de défi, d'aventure, de rencontre dont tu as envie mais que tu n'aurais pas réalisé, même si on a compris que tu avais déjà connu beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a... encore des Graals à atteindre pour toi?
Alors le Graal, enfin, il est tout relatif. Ça va être Saint-Jacques de Compostelle, le prochain. Donc, beaucoup, voilà, pas de dossard, rien, mais j'ai toujours eu ça en tête. Mon seul frein aujourd'hui, c'était justement d'attendre que mon petit dernier ait le bac.
2024, donc?
Ouais, non, mais dès qu'ils le savent, à la maison, ils savent que dès que... Installer Paul, ses études, maman se barre avec son sac à dos. Parce que voilà, qu'on veuille ou non, je ne pouvais pas non plus m'absenter aussi longtemps que ça. Les projets que j'ai en tête, ça va être des grands chemins de randonnée, oui. J'ai plus envie de ça aujourd'hui. Donc ce sera Saint-Jacques, on va commencer par le plus simple, parce qu'on va commencer par celui en France. Avec potentiellement le Népal que je n'ai jamais vu et que j'aimerais aller voir. Et peut-être un jour un grand chemin de rando aux États-Unis. Oui. Voilà.
Joli programme. Pas forcément des dossards, mais des aventures.
Oui, voilà. Pas forcément aujourd'hui la recherche à un dossard supplémentaire. C'est ce que je te disais. J'ai vraiment réalisé les courses que je rêvais de faire. Je les ai faites, quoi. Donc... c'est quand même dingue de pouvoir se le dire à un peu plus de 50 ans. Donc voilà, on va déjà... Là, vraiment, les aventures, c'est du off, parce que justement, tout ce que j'ai vécu avant fait que je me connais bien aujourd'hui et que je me sens aujourd'hui capable de me lancer sur des choses un peu plus route, c'est un peu plus off, on va dire.
Et que tu serais prête à vivre seule? Enfin, même si on n'est jamais seule, évidemment, dans ces moments-là, mais en tout cas, d'initier
complètement.
En solo.
Ah oui. Ah ça, c'est par contre, c'est une force aussi et un truc que j'ai découvert. J'adore être seule, mais vraiment. Être seule avec ma frontale, la nuit dans le désert, c'est mes plus grands moments de bonheur. Donc, mais vraiment, j'ai pas du tout la trouille d'être seule. Peut-être à tort, certainement d'ailleurs, mais non. Donc vraiment, faire Saint-Jacques, le principe, normalement, c'est les rencontres justement sur le chemin. Donc j'imagine que là, il y en aura, mais peut-être un peu moins justement... dans des chemins de rando aux États-Unis, mais je crois que pour avoir lu pas mal de récits, c'est ça tout le charme aussi de ce type d'aventure, c'est que finalement, on croise quand même du monde. Et on n'est finalement pas aussi seul qu'on veut bien le croire.
Merci beaucoup, Cécile. On va conclure cet épisode sur ces mots. Ah non, pas du tout. J'avais oublié la question. Attends, incroyable. J'ai oublié la dernière question de l'épisode. C'est le motto de la fin. C'est l'heure de me parler de la phrase qui incarnerait ta philosophie de vie. Voilà.
Alors, il se trouve que justement, c'est un lien avec l'Antarctique. Parce que je connaissais assez peu l'histoire de l'Antarctique avant d'y aller, très honnêtement. Et quand j'ai fait ma première aventure là-bas, il y avait dans le bar, il y avait une petite bibliothèque avec des livres et des DVD. Et j'ai découvert l'expédition de Shackleton, le Lord anglais, qui a vécu, c'est au début du XXe siècle, qui est parti en expédition. Le bateau était pris dans les glaces. Il a laissé son équipage pour aller chercher des secours. Il a promis à son équipage qu'il reviendrait avec des secours et il a sauvé son équipage. Ils sont partis à deux. Enfin bon, il y a toute une épopée. Je veux dire, il faut absolument lire cette épopée si vous ne la connaissez pas. Enfin, ou aller sur Google, hein. On la trouve très facilement. Et il se trouve que cet homme, donc, est un lord, grande aristocratie anglaise, avait sa famille avait comme devise « Par l'endurance, nous conquérons ». Son bateau s'appelait l'Endurance et j'ai trouvé donc quand j'ai découvert cette histoire
effectivement très adapté.
C'était parfaitement adapté et c'est devenu ma... Je serais bien capable de me le faire tatouer un jour, tu vois, donc ça donne une idée, mais par l'Endurance nous conquérons est vraiment
très beau motto.
J'ai trouvé que c'était pas... il y avait pas de hasard.
Cette fois, Cécile, c'est la deuxième fois que c'est la fin de l'épisode, mais cette fois, c'est la vraie bonne.
C'est la vraie.
Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences qui sont hors du commun et qui, l'ont compris, s'inscrivent dans un projet qui est bien plus large que le seul quête sportif. Merci aussi de nous avoir fait voyager donc, dans tes baskets et dans tes moon boots. Je ne sais pas si ça existe encore, mais dans des environnements aussi divers que fascinants. Et puis d'avoir retracé ton étonnant parcours de vie qui, je te cite ici, font de toi une fille ordinaire qui fait de temps à autre des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est un euphémisme, on peut le dire. C'est en tout cas un très beau message qui, j'espère, incitera chacun à son échelle à oser se lancer sur des défis qui pourraient leur paraître sur le papier un peu plus grands qu'eux. Merci en tout cas pour nos échanges, Cécile. J'ai pris beaucoup de plaisir à m'entretenir avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures, à commencer par celle à venir en Jordanie dans un peu plus de 6 mois. Et puis voilà, je te souhaite évidemment aussi beaucoup de bonheur pour toutes les autres aventures qui s'offriront à toi dans le futur, parce qu'on a compris, il y en aura encore beaucoup d'autres.
Oui, je l'espère. Merci aussi de m'avoir écouté.
Avec plaisir. À bientôt, Cécile.
À bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.